Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
6 minutes pour trancher.
Bonjour Anne Toulouse.
Bonjour à tous.
Vous êtes journaliste franco-américaine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour François Durpère,
bonjour,
historien, spécialiste des États-Unis. Merci à l'un et à l'autre de venir débattre ce matin à l'occasion du premier anniversaire de l'élection du président américain. La première question, elle porte évidemment sur ses tout derniers propos, parce qu'on pourrait commenter les commentaires de Donald Trump toutes les 10 minutes. Outre l'actualité de la violence en Amérique, nous allons donc revenir sur ces 26 morts dans une église du Texas. Le président a déclaré il y a quelques instants, le problème n'est pas celui des armes, mais celui de la santé mentale. Il le pense, c'est une provocation de plus, c'est pour faire réagir. Comment analysez-vous ça, Anne Toulouse?
Oui, d'abord, il n'a pas foncièrement tort, parce que je ne pense pas que quelqu'un d'équilibré arrive dans une église qui est vraiment un sanctuaire, un endroit où les gens n'ont pas le droit de porter d'armes au Texas, contrairement à l'État voisin, l'Arkansas. Donc on peut penser que... Et il y a un vrai problème de santé mentale aux États-Unis où les gens ne sont pas pris en charge et où même lorsqu'ils sont signalés à la justice, il est très difficile d'interdire à quelqu'un de porter des armes, ce qui, de toute façon, en l'occurrence, n'aurait pas été pertinent, puisqu'il s'agissait d'un condamné par la justice militaire qui n'avait pas le droit de porter une arme. Donc, voilà, cela va soulever le problème des armes aux États-Unis, mais c'est vrai, et on l'avait soulevé aussi du temps de Barack Obama lors de l'affaire de Sandy Hook, où manifestement c'était un adolescent perturbé. Maintenant, moi, vous savez, je suis accablée d'avoir toutes les semaines à parler de ce genre de problème, alors que j'ai essayé de jeter un regard plus léger avec Bienvenue en Trumpy sur l'actualité, et je me retrouve face à cette Amérique parallèle de la violence et qui semble se manifester semaine après semaine et devant laquelle on est totalement impuissant, totalement.
Livre qui vient de paraître aux éditions Stock. Alors, le problème, ce n'est pas celui des armes, mais celui de la santé mentale. Il le fait exprès.
Non, il ne le fait pas exprès, c'est un marqueur pour son électorat, parce que l'Amérique est divisée sur ce sujet-là. Vous avez des Américains qui considèrent que l'arme tue, et puis vous avez des Américains qui considèrent que l'arme... C'est pas elle qui tue, c'est le méchant qui est derrière l'arme. C'est le point de vue de la NRA, mais c'est le point de vue partagé par beaucoup d'Américains.
Absolument.
Ce qui fait d'ailleurs anecdote. Vous savez que on a le droit, alors dans les universités au Texas, les universités d'État, on a le droit de porter des armes. Le moment
au sein de l'université.
Au sein de l'université d'État, hein, pas les universités privées, universités d'État. Depuis août 2016, et symboliquement, cette mesure a été prise le jour anniversaire où un homme est rentré sur le campus d'Austin et a tué 14 personnes. Donc, elle a été prise précisément cette mesure pour éviter qu'il y ait des tueries. C'est ça qui a l'air très exotique quand on est français, quand on se dit mais comment ne voit-il pas que ce sont les armes qui tuent ? Eh bien non, pour eux, ils se disent ben non, regardez les endroits où il n'y a pas d'armes à feu. D'où la phrase de Donald Trump sur les événements du Bataclan, quand il disait mais alors ces Français, ils ne sont pas armés. S'ils avaient été armés, le tueur n'aurait pas pu rentrer dans le Bataclan. Les tueurs n'auraient pas pu faire autant de morts. Donc c'est vraiment une logique très différente. Alors, c'est pas tous les Américains qui pensent comme ça, mais c'est au moins plus de 50% des Américains qui le pensent. Et en plus, ils s'appuient sur le deuxième amendement à la Constitution américaine qui prévoit le port de l'arme.
Et finalement, vous venez de nous dire qu'il s'adresse avant tout à son électorat, qui continue d'être satisfait de lui, puisqu'à plus de 30%, les Américains à 35, je crois, ou 34, pardonnez-moi. 40 maintenant ?
Non, enfin, la moyenne, c'est 38,9 ou quelque chose comme ça.
Bon, voilà, moi, le dernier sondage que j'ai vu donnait 34% des Américains qui étaient satisfaits de son action, et le taux monte jusqu'à 80% chez les Républicains, d'où votre première réaction.
Non, c'est la moyenne des sondages.
Alors, très bien. Donald Trump avait beaucoup promis pendant la campagne, et à force de constater, on est quand même obligé de se rendre compte qu'il y a un certain nombre d'échecs. Je cite en vrac, abrogation de l'Obamacare, raté de son décret anti-immigration bloqué par plusieurs juges fédéraux, son mur avec le Mexique, les travaux n'ont pas commencé. Pourquoi ?
Oui, et d'ailleurs, je vais vous citer un autre sondage. 65% des Américains...
C'est sa campagne, ces trois annonces.
Oui, mais 65% des Américains lui reprochent de n'avoir rien fait. Donc, ils attendaient quelque chose. Je pense que ce qu'on attendait d'ailleurs en priorité quand on vit aux États-Unis, c'était la réforme fiscale sur laquelle on anticipait une relance de l'économie qui d'ailleurs a eu lieu. Je ne sais pas si, dans quelle mesure Donald Trump en est responsable puisque la tendance s'était amorcée avant. Donc, Donald Trump a été élu.
En tout cas, pardonnez-moi, il dit que c'est grâce à lui et le Dow Jones bat effectivement des records.
Les présidents disent toujours que c'est grâce à eux que l'économie va bien et que c'est grâce à leurs prédécesseurs qu'elle va mal. Ça, c'est un classique. Donc, si vous voulez, il y a ces deux pays parallèles en ce moment. Vous avez les États-Unis où tous les indicateurs économiques sont au vert et où la population est plutôt satisfaite dans tous les domaines. D'ailleurs, parce que quand on dit aux États-Unis que quand la mer monte, tous les bateaux sont soulevés. Donc, des plus pauvres aux plus riches, tout le monde en bénéficie. Et puis, à côté, vous avez la Trumpie, oui. Cette espèce de pays complètement fou où le président a entraîné tout le monde, y compris son opposition, je dirais la presse et dans une certaine mesure l'opinion publique, dans une espèce de spirale infernale où tout le monde se situe dans l'outrance.
François Durpère.
Pour faire le bilan de Donald Trump, il ne faut pas le juger sur le programme de son adversaire. C'est-à-dire que, évidemment, ce n'est pas Hillary Clinton, Donald Trump. Il faut le juger sur ce que...
Pardonnez-moi, abrogation d'Obamacare,
oui, alors, précisément.
Décret anti-immigration alors, et le fameux mur du Mexique.
Alors, justement, son électorat, ce qui est important, c'est pourquoi son électorat ne lui reproche pas cela. Son électorat ne lui reproche pas cela. Citons par exemple Obamacare. Parce que cette lenteur à abroger Obamacare, elle l'attribue au système, au Congrès, aux Républicains. Et d'ailleurs, c'est en partie vrai. Les Républicains, ça fait 8 ans qu'ils disent « nous allons abroger Obamacare ». Et ce n'est pas que Donald Trump qui ne l'abroge pas, c'est le Congrès républicain qui ne l'abroge pas. Il faut quand même se rappeler qu'il y a, et ça a entraîné quand même dans cette première année, beaucoup de bisbilles à la Maison-Blanche entre les conservateurs d'un côté et les populistes de l'autre. On a d'un côté des Républicains conservateurs qui ont une vision des choses, de l'autre côté... les Steve Bannon, qui a quitté la Maison-Blanche depuis, qui a une autre vision des choses. Donc, ça, c'était lors de son électorat que tout s'est joué. De son point de vue, à lui, il y a des réussites, notamment la tax reform qui est quand même en... Il y a le budget. Le budget est voté. Ça n'a pas été le cas tout le temps sous Barack Obama. Donc, c'est pas se faire le défenseur de Donald Trump, mais c'est simplement de dire pourquoi son électorat continue à lui faire confiance. Il fait confiance parce qu'il n'a pas trahi. Parce que de l'opinion de beaucoup d'Américains, il n'y a pas eu de trahison.
Alors, c'est ma dernière question. Bon, l'économie va bien, on l'a compris. Les Américains ne sont pas mécontents. En France, on parle toujours de lui comme du plus épouvantable président américain qu'on ait jamais eu. Voilà, on en est où au moment où nous parlons, en quelques mots, l'un et l'autre. Anne Toulouse.
Mais, écoutez, surtout, c'est le président dont les écarts de comportement sont les plus publics. Car je rappelle dans mon livre qu'il y a eu quand même quelques sérieux fantaisiste à la Maison-Blanche, mais simplement il y avait une sorte d'opacité autour de leur comportement, tandis que Donald Trump se met en scène perpétuellement. C'est quelqu'un qui a à la fois le syndrome non seulement du politique, mais le syndrome du milliardaire, qui a fait tout ce qu'il voulait pendant toute sa vie, qui n'a jamais eu de frein, et là il est lâché, toute bride abattue à la Maison-Blanche. Ouais. Mais croyez-moi, avant lui, il y a quand même eu de sérieux fantaisistes.
Oui. D'un mot, vous vous souvenez de le titre de son émission de télé-réalité, ça s'appelait L'Apprenti, The Apprentice. Et là, on peut dire que cette première année, c'est l'apprentissage du service public pour quelqu'un qui disait, voilà, je suis chef d'entreprise, je vais gérer les États-Unis. Oui, mais là, on est au service du public, c'est un peu différent. Il a appris lors de sa première année. Difficilement, on va voir le reste.
Qu'il a une courbe d'apprentissage, d'ailleurs.
Écoutez, je vous donne rendez-vous l'an prochain, dans un an, pour commenter tout ça avec grand plaisir. Merci infiniment, François Durpère, merci Anne Toulouse. Je rappelle que Bienvenue en Trumpy vient de paraître aux éditions Stock. Bonne journée à l'un et à l'autre.